parler seulement de la parabole des vignerons ici, parce qu'elle est capitale. Je n'aurai pas le temps de vous parler vraiment de l'épître de saint Paul, qui est une épître assez difficile. Mais juste, je souligne une chose. Saint Paul est un génie théologique. C'est vraiment un géant, c'est le plus grand de tous les théologiens. Vous avez remarqué qu'il parle de l'esprit de prophétie, c'est-à-dire ceux qui parlent en langue, c'est-à-dire quand quelqu'un peut spontanément parler dans une langue qu'il ne connaît pas. Comme on fait les apôtres, toujours les apôtres. Mais ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils disent. Donc il y a ça, et puis il y a le fait de faire travailler son intelligence. Et il dit une chose très très intelligente, très remarquable. Il dit, vous pouvez parler en langue comme ça. Et si les gens ne comprennent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Il dit, il y a aussi une intelligence. Et ça, c'est très fort. Parce que vous avez remarqué qu'en Orient, on cultive surtout l'esprit prophétique, la tradition, en Occident, surtout l'intelligence. Il faut les deux. Parce qu'il dit, mais si vous prophétisez que les gens ne comprennent rien, ça ne va pas les amener au Christ. Donc on ne doit pas oublier cela. Le tout n'est pas de faire des prodiges. Ça produit du fruit. Je reviens à Vignerons Messie. Le Christ se trouve entre les rameaux et sa passion. Vous voyez, c'est un moment tout à fait dur où il va avoir à affronter oralement les Juifs. Quand on dit les Juifs, c'est les principaux des prêtres et des pharisiens. C'est des gens qui comptent. C'est un moment de passion morale pour lui, avant qu'on ne le tue physiquement, avant qu'on ne lui frappe. Mais d'abord, on va frapper son âme. C'est un moment d'affrontement terrible. Et il fait une prophétie terrible. Il dit une parabole qui est terrible et redoutable. C'est une parabole de jugement, dans laquelle il annonce sa mort et sa résurrection. Terrible! Parce qu'on nous dit à la fin, les évangélistes, les témoins nous la racontent, nous disent que les principaux des prêtres et les pharisiens ont bien compris qu'ils parlaient pour eux. C'est quelque chose d'extrêmement dur. Et cette parabole, elle a ceci d'extraordinaire, ça n'arrive pas pour toutes les paraboles, mais ça arrive quelquefois, c'est que, en quelques mots, 10 lignes dans l'évangile, le Seigneur nous fait un résumé absolument extraordinaire du dessein de Dieu pour l'homme et de toute l'histoire spirituelle de l'humanité. En 10 lignes. Il n'y avait que Dieu qui put faire cela. Aucun homme au monde ne pourrait le faire. C'est impossible. C'est un résumé saisissant. Il y a tout dedans. Je ne vais pas tout vous détailler. Il faudrait un an pour le détailler encore bien plus que ça. Mais simplement souligner quelques points forts. Alors, la traduction qu'on a utilisée n'était pas très bonne. C'est le maître. Il y a un maître. On dit un père de famille. C'est un maître. Ce maître, c'est le Père Céleste. Tout lui appartient. Tout. Les routes, les hôpitaux, tout appartient à Dieu. Il est maître de tout. Tout est à lui. Il a tout créé. C'est lui qui a planté la vigne. C'est lui qui a mis une haie. C'est lui qui a fait la tour. Il est le maître de toutes choses. Il faut peut-être de temps en temps qu'on s'en souvienne aussi, nous, les athées, on va dire. La France est un pays complètement athée. Les athées, les insensés. Peut-être qu'on s'en souvienne que tout appartient à Dieu. Qu'il s'agit du dessein de Dieu. C'est Dieu qui a choisi tout cela. Et qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Au fond, il plante le paradis. Ce que le Seigneur nous dit dans le début de la parabole, c'est le paradis. On nous dit, dans la Genèse, que Dieu a planté un jardin. Et c'est un jardin qui est isolé du reste du cosmos. Un jardin, c'est très particulier. Ce n'est pas de la nature vierge, c'est bien ordonné. C'est quelque chose qui a été pensé pour que ça soit beau. C'est un jardin. Et le Seigneur met l'homme au milieu, l'homme et la femme. Il dit, prenez soin du jardin. Vous êtes mon image dans le cosmos. C'est ça la parabole des vignerons missiles. Ça nous rappelle la Genèse. C'est Adam et Ève dans le jardin des délices. Et c'est aussi Israël Le Seigneur dira souvent « Israël a vigné, Israël ont bien aimé ». Pas parce que c'est un peuple ceci ou cela, c'est parce qu'Abraham et Moïse ont écouté Dieu, pas les autres. C'est pour ça que le Seigneur dit « mon bien-aimé ». L'image de son fils. Et c'est aussi l'Église. Parce que, évidemment, nous allons voir très rapidement que c'est contre les Juifs qui n'écoutent pas le Seigneur. Mais ça vaut aussi pour nous, ça vaut pour l'Église, ça vaut pour chacun d'entre nous. Il faut remarquer d'abord quelque chose. Le Seigneur plante cette vigne et il la loue. Il la loue à des gens, il la loue à des fermiers. Vous avez remarqué qu'il ne la donne pas. Mais il ne peut pas la donner. Et il ne peut appartenir qu'à Dieu. Donc il la loue. Rien ne peut nous appartenir ontologiquement. Tout nous est prêté par Dieu, tout. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Donc il la loue. On ne peut pas la donner. Nous ne pouvons pas avoir le caractère incréé de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement cet aspect théologique, c'est que le maître, en attend des fruits, vous avez vu, il garde le lien avec ceux qu'il a créés. Il place dans la vigne et il attend des fruits. C'est assez extraordinaire. Il va faire coopérer l'homme. Magnifique. Vous avez vu, Dieu ne fait pas tout lui-même. Et pour bien montrer qu'il demande à l'homme d'agir et de faire, il s'en va. L'évangile nous dit, par un pays lointain, c'est quoi? C'est l'inaccessibilité de la divinité. C'est ce qu'on appelle la ténèbre incréée, le temple supra-céleste. C'est totalement lointain pour nous, c'est inaccessible. Ça veut dire que Dieu nous laisse le temps et la liberté. Et il dit, travaille. C'est mon image. C'est beau le dessein de Dieu. Il faut quand même le souligner. Admirable dessein de Dieu. Et puis quand il y a pas mal de temps qui est passé, il envoie ses serviteurs dire « Mon maître me fait dire, donnez le vin, donnez le fruit. » C'est tout à fait extraordinaire. Alors la vigne, j'en ai beaucoup parlé dans d'autres homélies, notamment pour les noces de Cana. La vigne, c'est l'arbuste qui a le plus gros rendement de tous les arbustes. Le plus, c'est celui qui produit le plus de fruits. Et la vigne produit le vin. Mais il faut réfléchir sur ce qu'est le vin. Le vin est un produit entièrement naturel. Il existe dans la nature, c'est pas l'homme qui l'a inventé. C'est un produit entièrement végétal. C'est une nourriture paradisiaque. Le vin a de la couleur, c'est-à-dire de la beauté. Il a du bouquet, il est bon au goût, il en y est. Le vin est entièrement gratuit. L'homme a besoin de l'eau pour vivre, il n'a pas besoin de vin. C'est une image des dons de Dieu, c'est une image de ce à quoi Dieu nous appelle. Ce vin évoque pour nous la parabole du banquet céleste, les noces de l'agneau avec l'Église, les noces de Dieu avec l'homme. C'est ça qu'il évoque, le vin. C'est un bonheur ineffable, gratuit. Tout ce qui est divin est gratuit, parce que c'est sans nécessité, c'est de l'amour pur. Voilà ce que représente le vin. Et Dieu fait coopérer l'homme à ça. Il dit, je te donne la vie, tu as un terrain, et tu travailles. Tu la cultives, la vie, tu en prends soin. Tu vas presser le raisin, tu vas faire tout ce qu'il faut pour obtenir du vin. Tu es intelligent, je t'ai donné l'intelligence. Travaille et œuvre. Transforme le cosmos, élève-le jusqu'à moi. C'est ça que demande Dieu à l'homme. Alors il envoie d'abord les serviteurs, et les pères de l'Église nous disent c'est les prophètes. Les serviteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent merci, ils remercient le maître, ils offrent quelque chose, rien. Ils battent les serviteurs et les tuent. C'est nous. Deuxième vague de serviteurs. Pareil, chez Saint-Luc, une troisième vague de serviteurs. Terrible. Ça, c'est le péché de l'homme. Le péché de l'homme, c'est avoir la grâce, avoir les biens sans le donateur. Vous avez vu Adam et Ève dans le paradis? Bah, Satan, il dit une petite chose bien gentille. Et... mi-vrai, mi-fausse. Sinon, il n'écoutera pas. Mais oui, vous allez devenir des dieux. Bien sûr. Ah, ils veulent bien devenir des dieux, mais sans Dieu. Mais c'est le plus grand péché de l'homme. C'est le péché contre l'amour. Si je ne veux pas m'unir à toi, et je ne t'aime pas. C'est ça le péché de l'homme. Quand on dit désobéissance, orgueil, c'est des mots pour voir qu'il est le vrai péché. C'est péché contre l'amour. Oui. Les réactions des servites, des réactions des hommes quand Dieu envoie les prophètes. Dieu ne se décourage pas. Et nous, on est tout de suite découragés de connaître des ennuis. Vous avez vu la patience de Dieu, c'est inimaginable. Ça se fait pendant des centaines de milliers d'années, tout ça. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est que dans cette parabole, le Christ nous ouvre le cœur du Père Céleste. Le Père se dit, je vais lui envoyer mon fils. Ils auront des égards. Que Dieu pense de nous après toute notre turpitude, toute notre méchanceté. Le Père, parce que le Christ nous révèle les pensées du Père, il l'a dit. Ils ont mon image. Ils m'aimeront pour moi-même. Je vais leur envoyer mon fils, mon image parfaite. Terrible pour nous. Terrible. Et quand le fils arrive, qu'est-ce que nous nous disons? Pas les autres, nous. Voici l'héritier. Tuons-le et on parle de notre vie. Adam et Ève ont le paradis. Tuons-le et on parle de notre vie. Devenons des dieux sans Dieu. Volons le caractère divin. C'est notre péché. Alors, bien sûr, ça s'adresse à Israël, en l'occurrence, à ce moment-là, hein, parce que le Seigneur, il est juste avant sa passion. Il pose la question aux Juifs. Les Juifs répondent comme des êtres humains, c'est des réponses d'hommes, c'est pas des réponses spirituelles. Bah, il va les faire périr, il en prend d'autres. C'est à ce moment-là que le Christ cite le psaume 117. Vous n'avez jamais lu cela. C'est qu'il annonce sa mort et sa résurrection. Le Seigneur annonce sa mort et sa résurrection et il s'adresse en particulier aux prêtres importants et aux pharisiens qui ne vont pas écouter. C'est simple que c'est pour eux. Ce qu'on peut souligner aussi, ça c'est la parabole elle-même, et la resituer dans son contexte historique. C'est que ça ne vaut pas que pour Israël. L'Église commet aussi parfois des péchés, et parfois elle oublie le nom de Dieu, et parfois elle s'égare dans l'histoire. Que la parabole, elle vaut pour toutes les générations humaines. Et lorsque nous nous comportons indignement, que nous ne sommes pas conformes aux pensées divines, nous refaisons ce péché. Donc je voulais vous souligner aujourd'hui que ça concerne aussi l'Église, et pas seulement ma peuple juif, et même ça nous concerne chacun nous-mêmes. Moi je suis un vigneron, il m'a envoyé un salut, le Seigneur. Mais d'abord, est-ce que je le remercie? Puisque je lui offre des fruits. Quels fruits j'offre à Dieu? Ou est-ce que je me dis, voici l'héritier, je le tue et je pique l'héritage? Voilà. C'est une instruction spirituelle qui vaut pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est mis devant ses consciences spirituelles. Et à Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles.